Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Et merci à vous de nous retrouver à suivre Eva Rock pour son zapping du lendemain très glissant aujourd'hui et Bertrand Chamerois pour son écran de veille très glaçant. Notre invitée, la comédienne Pascale Arbillot qui incarne le rôle de présidente du comité Miss France dans le film Miss qui est sorti mercredi. Hélène Manarino va nous dresser son portrait inattendu. Et puis dans les indispensables, le 20e album d'une légende, Bruce Springsteen. On sera avec Angèle Châtelier et puis on va partir à la découverte d'un humoriste suisse à Lausanne avec Louise Bernard. Bonjour Eva Rock.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous.
À Lausanne, il est à Genève peut-être. Ouais. Bonjour Bertrand Chamerois.
Quel bel accent suisse. Hein,
quand j'en tiens un, je peux dire je le montre. Hein. C'est pas comme si vous vous imitiez Patrick Sébastien.
Mais pas du tout.
C'est l'heure de votre écran de veille Bertrand. Et il paraît que vous avez trouvé, on m'a dit au bureau ce matin, un remède à la morosité ambiante.
Mais tout à fait Philippe, et il est tout simple. Dire que depuis tout ce temps, la solution se trouvait sous nos yeux et qu'on n'y avait pas pensé. Il suffit de vous saisir de votre télécommande et de bifurquer sur l'A23. Bienvenue sur RMC Story. Alors là, c'est parti. Embarquez sur l'autoroute de la joie de vivre pendant toute une journée à fond la caisse et sans péage. Voici un exemple de programmation. L'enchaînement est réel. Midi 10, l'enfer des prisons. Suivi à 14h10 de Voyage au bout de l'enfer. 16h20, faites entrer l'accusé. 18h05, trois épisodes de New York Police Judiciaire, dont l'exécuteur testamentaire et souvenir d'Auschwitz, qui nous emmène tout droit au prime. 21h05, les plus grandes catastrophes naturelles.
C'est la vie en couleur. Tiens, voilà le marchand de ballons.
RMC Story pour des journées qui sentent bon le Temesta. Les plus grandes catastrophes naturelles, donc un programme britannique au titre alléchant, bien que mensonger, puisque le dernier single, Les Trois Cafés Gourmands, n'y figure
non,
pas.
Non, Bertrand.
Mais on les adore, on les embrasse, magnifique. Mais dont le sommaire ferait passer 2020 pour une kermesse de CE2.
Des tsunamis réduisant à néant les meilleurs systèmes de protection. Des éruptions volcaniques dont les victimes se comptent en millions. Des séismes qui révèlent les secrets de notre planète. Et des épidémies qui mènent l'humanité au bord de l'extinction.
Au premier coup d'œil, le docteur a dit « Vous avez la peste bubonique. »
On n'avait besoin que de ça,
voilà, derrière,
évidemment.
Au premier coup d'œil.
Tu t'écoutes un petit Daniel Guichard et hop, tu pars les deux pieds devant. Dire qu'il y en a qui osent encore venir chialer parce qu'ils ne peuvent plus boire de demi en terrasse après 21h. Mais quelle indignité! Mais dites-moi, RMC Story, puisqu'on est dans la bonne humeur, là, autant y rester, je me demandais, quand on est pris au piège d'une éruption volcanique, il se passe quoi concrètement?
Si on est pris dans une nuée ardente, on est simultanément brûlé, étouffé et frappé par des rochers.
Ça a l'air drôlement sympa, dis donc. Hein, on n'est peut-être pas si mal lotis, finalement. Mais je reviens au titre du programme. Les plus grandes catastrophes naturelles, ça signifie quoi? Les plus grandes, ça voudrait dire qu'elles ont été comparées et que... Non, me dites pas que... Ils ont quand même pas... Ah si ?
Lequel de ces cataclysmes a fait le plus de dégâts ? Découvrez avec nous le top 10 des plus grandes catastrophes naturelles dans l'histoire de l'humanité.
Non.
Oui, vous avez bien entendu. Un top 10, ils ont classé les catastrophes comme Christophe de Chavannes classait les fous rires autrefois à la télé. Alors je peux pas m'empêcher d'imaginer ce qu'il s'est dit en réunion pour les catastrophes qui n'ont pas été retenues.
Ah ouais.
Non, désolé, mais ta tornade, Michel, là, les images sont spectaculaires, hein, y a pas de souci là-dessus, mais pas assez de dégâts, désolé. Non mais quitte à faire un classement des catastrophes, fallait y aller jusqu'au bout, les gars, assumer, faire ça en plateau, en public, avec la bonne musique et tout. Il vous restait encore un peu de morale malgré l'année qu'on vit. Elles ont ravagé des villes entières et fait des millions de victimes. Elles vous ont foutu un cafard monstre. On a décidé de les classer. Laquelle sera numéro 1 en compagnie de Claudia Tagbo et Jarry, les 100 plus grandes catastrophes naturelles, c'est sur RMC Story. Attention, ça va secouer. À quelle époque ! Alors pour ceux qui ont encore la patate, hein, si tant est que ce soit possible, le programme sera rediffusé le 3 novembre à minuit. Allez, je vous laisse, je vais racheter des antidépresseurs.
Vous allez leur donner des bonnes idées. Hein.
Oh là là.
Ils sont capables de le faire, non ?
Mais bien sûr, et on embrasse, des... on embrasse Claudia Tagbo et Jarry. Merci beaucoup Bertrand Eva.
Oui.
Je me tourne vers vous, on va se pencher sur le zapping du lendemain, évidemment. Les programmes à ne pas manquer ce soir, qui s'articulent autour d'un thème, le thème du jour, Eva.
Les patins à roulettes. Alors si.
Vous avez trouvé trois.
J'ai trouvé, mais oui,
bravo,
mais voilà. Oui, c'est un exploit. Ça commence avec une nouvelle série qui est à regarder sur la plateforme gratuite Slash TV. Ça s'appelle Derby Girl, l'histoire de filles qui pratiquent le roller derby. C'est un sport de contact, alors voire de combat, en patins à roulettes. Immersion dans l'équipe nulle des cannibales licornes, avec la présentation des petites nouvelles, dont une jeune fille qui, écoutez bien, elle a les cheveux frisés, une bouille un peu ronde, et elle rappelle évidemment un humoriste.
Quelqu'un veut se présenter ? Vas-y toi, Coluche.
Je m'appelle MJ.
J'ai regardé Bliss il y a pas longtemps et ça m'a donné envie d'essayer. Alors le problème, c'est que j'ai jamais fait de roller, ni de sport, parce que... Parce que je suis un peu...
Ouais.
Ok, Maggie. Sache qu'ici, personne va te juger. Et on accepte tout le monde, quel que soit votre niveau. On est avec toi. Et toi ?
Je m'appelle Lola Bouvier. Je suis 4 fois championne de France junior de patinage artistique, double championne d'Europe, vice-championne du monde. Et si je suis là aujourd'hui, c'est pour devenir la plus grande joueuse de roller derby de tous les temps.
Ok, cool.
Ouais, alors elle est aussi arrogante, agaçante, énervante, insupportable. Mais elle est l'héroïne de cette série. Elle est incarnée par Chloé Jouanet, fille de Thomas Jouanet et d'Alexandra Lamy. Et elle endosse à merveille ce rôle de garce dans une série qui plaira notamment à vos adolescents. Voilà pour le premier conseil en patin à roulettes. Deuxième recommandation. Bertrand Chameroy.
Ah bah la boum.
Mais évidemment, évidemment. Alors je sais, on a tous vu 10 000 fois ce film. Et alors ? TFX diffuse la boum et c'est une très bonne idée. D'ailleurs, là aussi, les questions de patins à roulettes,
oui,
rappelez-vous.
Wow,
Claude Brasseur n'est pas très à l'aise d'ailleurs sur ses patins. Il vient chercher sa fille, jouée par Sophie Marceau dans la discothèque La Main Jaune. Elle est en train d'essayer de rendre jaloux Mathieu, son petit copain, et elle trouve rien de mieux que d'embrasser son père sur la bouche.
Non, mais t'es complètement folle.
Que c'est que ce type avec Vic ? Aucune idée.
Je ne m'en lasse pas, le film date de 1980, réalisé par Claude Pinotto, écrit par le cinéaste et par Madame Danielle Thompson. Au costume et au montage, des femmes également. Autant de femmes, c'était presque une curiosité dans le cinéma des années 80. Eh bien, ça l'est toujours et c'est mon troisième choix du jour. Pas de patin à roulettes, mais une pente très glissante qui conduit à toujours plus de discrimination. Canal+ diffuse un documentaire remarquable, Tout peut changer. Et si les femmes comptaient à Hollywood ? Eh bien, tout est dans le titre et dans les témoignages édifiants comme celui de Sharon Stone.
C'est beaucoup d'énergie masculine. Les réalisateurs voulaient que je m'assoie sur leurs genoux. Ils m'appelaient et si je refusais, on me renvoyait dans ma caravane. Et j'ai dit, Tom Hanks s'assoit sur vos genoux ?
Et voilà, des réalisatrices et scénaristes quasi inexistantes, des actrices réservées au second rôle, des critiques de cinéma hommes tant qu'à faire. À Hollywood, les femmes ont bien du mal à s'imposer, mais vous allez découvrir comment Jessica Chastain, Gina Davis ou encore Meryl Streep se sont emparées de ces questions et parviennent à faire bouger les lignes. Documentaire d'utilité publique. Donc je récapitule, Derby Girl, c'est la nouvelle série de Slash TV, La Boom c'est sur TFX à 21h05 et Les Femmes à Hollywood c'est sur Canal+ à 22h50. Documentaire remarquable.
Merci beaucoup Eva Rock, merci beaucoup Bertrand Chameroy, à demain.
À
pour
demain.
Tous les deux, je me réjouis d'avance.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Bonjour Pascal Arbillot.
Bonjour.
Vous êtes comédienne, c'est mieux devant le micro, vous avez raison. On vous a vu dans Les Petits Mouchoirs, dans Mon Chien Stupide d'Yvan Attal, Les Apparences avec Viard, Karine Viard ou Benjamin Biolay, ou encore Mon Cousin avec Vincent Lindon et François Damiens. J'aime beaucoup ce que Paris Match écrit sur vous cette semaine. Elle balade depuis une vingtaine d'années sa blondeur hitchcockienne dans des comédies populaires pour CSP+. L'actualité, c'est le film Miss de Ruben Alves. C'est avec Isabelle Nanty, Thibaut de Montalembert et Alexandre Véter dont on va reparler. C'est en salle depuis mercredi. C'est quoi l'histoire ? Et surtout, c'est quoi l'enjeu ? Parce que ce n'est pas seulement une histoire.
L'histoire, c'est d'abord l'histoire d'un jeune garçon orphelin dont on suit le parcours. Il tente de réaliser un rêve d'enfant. Mais c'est surtout un conte d'émancipation sur la différence, sur la marginalité et le besoin d'être regardé par les autres et de s'émanciper de ce regard aussi. Alors le concours Miss France étant un prétexte pour se confronter à un environnement hyper normé avec quelqu'un qui justement prône la fluidité du genre, pour reprendre un terme journalistique que j'ai lu il n'y a pas longtemps.
Gender fluid, bonne
ouais.
Annonce.
Moi mon rêve, ça serait de réparer les jouets cassés.
Mon rêve, c'est d'être Miss France.
J'ai besoin de ton aide.
T'aider à quoi ?
À devenir Miss France. Non, je suis très sérieux.
D'accord.
Vous devez savoir vous tenir droite, respirer, si ça peut vous aider.
Je peux avoir une explication ?
Il n'y a pas ma taille.
Il y a des paires jusqu'au 41.
Je fais du 42.
Tu n'es pas une vraie femme et tu ne le seras jamais.
Ouais, mais je pensais que tu serais un peu fière de moi.
Mais je suis fière de toi, je suis fière de toi. Mais de toi au naturel.
Tu ne lâches rien. Et tu vas en finale.
Bienvenue à la cérémonie Miss France.
Pourquoi voulez-vous devenir Miss France ?
Pour devenir quelqu'un.
Donc Alex, qui est un garçon, on le comprend, veut devenir Miss France. Oui. Et vous, Pascal Arbillot, quand vous étiez petite, vous avez fait cette confidence, vous vouliez être Raon.
Ah ouais ? Mais c'est vrai. Ah mais ouais, c'est vrai, ça me revient. J'avais collectionné les dents de Raon, je sais pas, j'avais fait un transfert.
Bah oui.
Mais je crois que j'avais envie de... de l'aventure, de la nature, je ne sais pas. Peut-être que je fantasme aussi sur Raon, ouais. sans me l'avouer. Quoi.
Ouais, mais si on fantasme sur quelqu'un, on ne veut pas le devenir.
Bah peut-être que
les hommes qui fantasment sur Brigitte Bardot ne veulent pas devenir Brigitte Bardot.
Ouais, pourquoi pas, c'est un mélange. Je ne sais pas. Pourquoi pas.
Qui est votre personnage? On appellera un psy après. D'abord, qui est votre personnage, Amanda?
C'est la directrice dans le film, en tout cas du concours Miss France. Elle sélectionne, elle participe aussi à l'entraînement, en fait, à la préparation de ces Miss pour présenter le concours. Et c'est une figure féminine d'exigence. C'est une femme très droite, dont on ne connaît pas du tout la vie privée. Alors, très exigeante.
On connaît un tout petit peu d'elle. Si on suit ce qu'a dit Ruben Alves, qui est le réalisateur, il a dit qu'il a pensé pour votre personnage, je le cite, à une sorte de pendant féminin de Karl Lagerfeld.
Oui, c'est vrai, il me l'avait dit aussi.
Ce qui veut tout dire et rien dire, parce qu'on n'imagine pas du tout ce que ça peut être.
Non, mais pour lui, c'était une façon d'être exigeant et en même temps d'aimer la liberté des autres, d'avoir un regard créatif et n'être pas juste une autorité... castratrice.
On va entendre le début du film. Là, vous êtes plutôt dans la castration. non, parce que le personnage évolue évidemment au fil du film.
Oui, c'est l'intérêt. D'ailleurs, dans le film, tous les personnages évoluent. Tous ont des problématiques
différentes et qui s'enrichissent.
Ouais.
Là, ça se passe, c'est lors du déjeuner des candidates. Et vous expliquez à toutes les candidates, toutes les futures Miss, comment se comporter, notamment pendant un dîner.
En France, on garde toujours ses avant-bras sur la table. Surtout pas les coudes. Et en Angleterre, en revanche, on garde les mains sous la table. La ponctualité, Île-de-France, ça fait deux fois.
Oui, deux fois.
Oui, mais ça fait deux semaines que vous nous répétez qu'une femme doit se faire désirer.
Ah, parce que vous pensez que 6 minutes de retard, ça vous rend désirable? Quelle ambition. Montrez-nous comment vous buvez du vin. Le verre à vin. Main gauche. Non, plus bas. Non, plus haut. Non, c'est pas comme ça. Laissez tomber. Bretagne, montrez-lui.
Oui, pour quelques millimètres, oui.
Vous n'avez toujours pas compris ce que j'attends de vous?
L'excellence.
Dans la vie, dans l'art, dans le sport, l'excellence se niche toujours au même endroit, dans le souci du détail. Vous connaissez la distance entre l'excellence et l'ordinaire? Quelques millimètres.
Quelques millimètres, j'adore comment vous appelez les filles. Elle s'appelle Bretagne,
oui,
même
Bretagne,
Paca.
Mais c'est la réalité. Hein. Elle nous a confirmé, Sylvie, elle appelle encore des candidates avec qui elle reste proche.
Bretagne ou Paca. Vous êtes très demandée par les metteurs en scène Pascal Arbillot, vous refusez beaucoup de projets et vous dites qu'au début vous avez eu peur de faire ce film. Vous avez peur de quoi? Vous aviez peur de quoi?
J'avais peur du cliché justement. Moi je suis arrivée en me disant... D'abord, la rencontre avec Ruben a été très forte, immédiate et après je n'ai eu aucun doute. Mais l'idée justement du cliché, peut-être mon rapport aussi à un concours qu'on pense être exclusivement lié à la beauté, à l'apparence. Et en fait, évidemment, on découvre que ça n'est pas que ça. Et dans la vie aussi, c'est pas que ça. Oui, on a peur des clichés quand on est comédien. J'avais peur de l'absence de nuance. Et en fait, c'est tout le contraire. Et c'est le sujet du film. C'est la nuance permanente des marginaux et de la féminité et de la masculinité. Et c'est vraiment à l'image de Ruben.
Beaucoup de nuances également dans les portraits d'Hélène Manarino. Elle arrive, vous restez avec nous, Pascal Arbillot, Culture Média continue.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de la comédienne Pascal Arbillot, qui est à l'affiche actuellement d'un film, ou plutôt elle est à l'affiche d'un film qui est actuellement à l'affiche. Ça s'appelle Miss de Ruben Alves, Isabelle Nanty, Thibaut de Montalembert. C'est l'histoire d'un garçon qui veut devenir Miss. Et on apprend plein de choses sur les uns et les autres qu'on ne connaissait pas. Et c'est un peu le métier d'Hélène Manarino. Bonjour Hélène.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour Pascal Arbillot. Je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Alors Lady Arbillot, Pascaline, vos surnoms, vous avez une mémoire impressionnante, vous retenez tout. Alors déambulons dans vos souvenirs sans nostalgie, avec beaucoup de joie. Cette comptine qui a marqué votre enfance, votre maman vous la chantait tout le temps en alternance avec l'histoire de la petite orange qui vient du Maroc, que vous finissiez toujours par manger à la fin d'ailleurs.
Extraordinaire histoire.
Pascal Arbillot, le rêve que vous avez formulé plus jeune, devenir présidente du Fonds monétaire international. Alors moi...
C'était Dominique Strauss-Kahn qui a eu le job.
Je vous propose ce matin d'être notre présidente, sans aucune monnaie d'échange. Rien d'étonnant à ce que le jeu que vous faites souvent avec vos neveux et nièces, ça s'appelle diplomatie. Mais avant cela, il y a eu d'autres activités quand vous étiez petite, évidemment. Alors, le plouc avec votre frère.
Ah ouais.
Et oui.
Oh bah bien sûr.
Madame la présidente, vous n'aviez pas...
J'adore.
Vous n'aviez pas de caprice de star, non, ce qui vous rendait heureuse enfant. Tremper votre cornichon dans une danette au chocolat.
Non. Attendez, c'est un code ou vous le faisiez vraiment ?
Non, non. Et après, mais mettre un mouchoir dans le vinaigre et téter le mouchoir. Ah, mais non. Mais...
Non, mais attendez, le cornichon au chocolat, vous le mangiez ?
Ouais, ouais.
D'accord. Super, bon appétit.
Et vous l'avez fait il n'y a pas très longtemps, en plus, il y a quelques années. Vos conseillers les plus proches savaient aussi que vous détestiez mettre la table. Vous alterniez une semaine sur deux avec votre frère. Sauf que quand c'était votre tour, eh bien, vous démissionniez. Vous trouviez des excuses pour ne pas le faire.
C'est vrai.
Toujours responsable. Comme
je l'ai
ce jour.
Une fois.
Non, c'est pas vrai.
Non, mais j'ai dû faire un truc comme ça. Du chantage affectif.
Pas toujours responsable, atroce. Pascal Arbillot, comme ce jour où votre papa vous a surprise en train de fumer une cigarette dans votre chambre. Il est rentré, la fenêtre était ouverte, vous aviez la cigarette dans le dos, la fumée était visible et vous lui avez tout de suite dit « Non, non, je ne fume pas ». On s'était grillé. Ou encore, vos sorties en cachette avec Hubert et Elisabeth. Vous faisiez le mur... dans votre maison en Haute-Marne pour aller danser à la fête du village tout en vous maquillant dans le reflet
dans
du lavoir.
Ouais, complètement, de nuit, avec une lampe de poche. Ouais,
mais non, mais c'est une scène de film, c'est magnifique.
Dément. 4 km dans la nuit, il n'y avait pas des réverbères à l'époque, il n'y avait rien, il y avait des sangliers qui passaient, donc n'importe quoi. Ah, c'était génial. Ah, ouais.
Peu importe les bêtises, vous preniez en tout cas cette liberté, une liberté inculquée par vos parents, vos deux meilleurs présidents. Tous les dimanches soirs, à 19h, c'était le temps de la liberté d'expression.
Ouais, c'est vrai.
Et vous pouviez tout dire à la maison.
Ouais.
Tout. Chanter, danser, crier.
Ouais.
C'est dingue. Vous aimiez vous déclamer des poèmes.
Ouais.
C'était votre moment.
Oui, c'est vrai.
Alors, aucun jury, juste la vie. Mais vous aimez ça, Pascal Arbillot. Profitez, rire. Quand un ami vous fait croire que l'expression « on ronde oignon » vient du commandant Oignon, qui demandait à ses troupes de se ranger. Et oui.
Bon, ça paraît plausible. Hein.
Ah là là. Ah, on ouais, ça c'est vraiment...
Et vous savez tout faire, chanter de l'opéra, par exemple.
Oui.
Grâce à ce professeur de chant qui vivait sur le même palier que vous.
Ouais, bah ouais.
Et là,
ouais, c'est vrai. Il m'a entendu un jour chanter. Ouais, ouais. Et j'ai commencé à faire du chant lyrique. Je suis rentrée au conservatoire. Puis j'ai arrêté. Oui, oui, c'est vrai.
Ah mince, c'est dommage. On aurait bien aimé entendre.
Danser, vous êtes super forte. D'ailleurs, votre première danse, c'était avec votre tutu bleu. Et oui, petite. Et plus tard, vous avez même appris les plus beaux pas de danse à votre frère. Curieuse et tournée vers l'international, vous n'oublierez jamais votre départ pour les États-Unis. À l'âge de 17 ans, vous êtes à l'aéroport en talons, tout apprêté. Vous passez la douane. Et là, c'est le drame. Ouais. Vous faites une énorme chute devant tout le monde. Belle technique pour que ces deux douaniers viennent vous aider.
Ah ouais.
Des voyages inoubliables, votre
plus... Énorme. Avec les douaniers.
Ah oui ?
Énorme.
Vous les avez revus après ou pas ?
Non, jamais.
Votre plus belle convocation quand il fallait partir en Corse avec vos parents. On met Harry, voire sûrement votre grand-mère Santa, avec qui d'ailleurs vous avez fêté vos 18 ans.
Oui.
Et elle fêtait ses 70. Oui. Ce moment vous a beaucoup marqué.
Oh oui, c'était ma grand-mère adorée. Adorée. J'y pense tout le temps. Je mets des cierges tout le temps dans les églises pour elle.
Alors, vous ne gérez peut-être pas le FMI, mais vous êtes l'une des plus généreuses. Vous êtes capable de vous mettre en galère financière pour aider les autres. La présidence vous va bien, Pascal Arbillot, sûrement celle de la liberté. Et en tout cas ici, de notre part, vous obtenez la majorité absolue.
Génial.
Je confirme.
Merci beaucoup.
Hélène. Petit commentaire.
Ouais, c'est merveilleux. Parce qu'on oublie. Après, dès qu'on a des images, on les revit. Et le passé n'est pas toujours mélancolique.
Voilà.
Et là, en l'occurrence, il est joyeux et il me fait du bien.
Bah,
merci beaucoup.
Avec plaisir.
Il y a le jeu du plouc. Merci beaucoup, Hélène.
Je ne connais plus les règles.
Moi non plus. Dans un instant, notre premier indispensable, Angèle Châtelier. On va entendre le tout dernier album du boss, à savoir Bruce Springsteen. A tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
En compagnie de la comédienne Pascal Arbillot à l'affiche du film Misk actuellement sur les écrans. Quel rapport, Pascal, vous entretenez avec les réseaux sociaux ? Vous avez un compte Instagram ?
Oui, très ambivalent. Parfois, je pars une journée, puis je reviens. Je pense qu'il y a quelque chose de... Il y a l'ordre de la drogue. Et là, en ce moment, je suis un peu compulsive. Et j'ai l'impression d'être en train d'arrêter de fumer. C'est-à-dire que je regarde plein de trucs et je pense que je vais... Pas partir pour partir, parce que tout le monde s'en fout, en fait. Au fond, on s'en fout d'être ou pas. C'est vraiment, ça reflète une faille. Après, je vois qu'il y a des hôtels, il y a des maisons qui ont des millions de followers. Enfin, ça ne veut plus rien dire aujourd'hui. J'aime beaucoup Twitter, à condition qu'on s'abonne. Enfin, moi, je m'abonne à des trucs que je trouve intéressants. Ouais. Et auquel cas, c'est une vraie source à l'ancienne d'informations. Mais oui, c'est de notre temps. Voilà, mais il faut.
Mais quand vous dites je viens, j'y vais, je reviens, vous parlez de votre compte à vous ou vous parlez d'aller voir les comptes des autres ? Vous-même, est-ce qu'il y a un compte Pascal Arbillot sur.
Oui, mais il est. Alors, j'ai tout effacé il y a peu de temps. Parce que j'ai une copine qui m'a dit mais c'est pathétique. J'ai fait ouais, t'as raison.
Il y avait quoi de pathétique ?
Mais c'est comme, par exemple, il y a des hommes politiques, là, je vois sur Instagram, ils publient leur. Comment, je sais pas, leur chat, leur chien. Enfin, je trouve ça. Je sais pas. Et en même temps, je conçois aussi qu'on soit un. Enfin, quand on a un personnage public, on peut dire des choses aussi, on peut se montrer. Mais je sais pas très bien, j'ai pas de position là-dessus. Moi, il y a des gens que j'adore, ils sont pas sur Instagram, et des gens que j'adore qui sont sur Instagram. Je sais pas très bien, c'est très ambivalent mon rapport à ça.
Vous dites.
Et vous avez un compte Instagram ?
Non, pas du tout, voilà. J'ai pas de compte Instagram. Vous dites que votre application préférée, c'est Shazam.
J'adore, c'est ma passion. Je trouve ça hallucinant.
Vous écoutez quoi en ce moment ? Vous avez découvert quoi sur Shazam ? Shazam, on explique pour qui je ne connaîtrais pas.
Tout le temps.
Quand on entend un morceau qui passe dans un resto ou ailleurs.
C'est la meilleure application du monde. C'est extraordinaire.
Dernière découverte.
Feu Chatterton, mais je le connais depuis quelques temps, hein. C'est un groupe que j'aime beaucoup.
Et vous savez quoi ? On l'avait préparé. Feu Chatterton, l'oiseau.
L'oiseau, oui, l'oiseau. Le serait-il doux, rayon comme des aigus, une poupée vaudou. Le soleil perce l'oiseau. Le serait-il doux, rayon comme des aigus, une poupée vaudou.
Feu Chatterton, l'oiseau, une découverte de 2018, mais ça n'empêche pas, ça peut venir de n'importe quand. Quand on écoute Ravel, c'est pas de l'année.
La Malinche, en fait, leur premier album, c'est par Shazam que j'avais découvert, en écoutant la radio.
Vous avez Instagram, Angèle Châtelier ?
Oui, malheureusement.
Ne faites pas cette tête.
Voilà,
non, mais c'est dingue, c'est comme une drogue.
Mais c'est pas normal.
Non, mais celui qui est content, c'est celui qui l'a pas, à savoir moi.
Voilà, vous avez raison, Philippe.
Voilà, on continue, évidemment, avec vous, on va parler musique, Angèle. Le boss est de retour, je l'ai dit.
Bruce Springsteen et son 20e album, Later to You. Summer sun, right by the lake till the evening comes. I run my fingers through your sun-streaked hair. Baby, that's the power. Later to You, ce 20e album de Bruce Springsteen est comme une biographie teintée de nostalgie. Je pensais savoir qui j'étais, mais j'avais tort. C'est ce qu'il chante par exemple. Alors à 71 ans, le boss se regarde dans 71. Le miroir, et oui, et il interroge les années qui ont passé, sa propre finitude, la vanité de la vie aussi parfois. Comme ici dans Ghost, qui résume le fil rouge de cet album. Ghost, qui veut dire fantôme, car un élément en a déterminé l'écriture de cet album, c'est la mort de son ami George Tice. Avec lui, il écumait ses premières scènes quand ils étaient jeunes avec leur groupe The Castles. Alors ces dernières années, Bruce Springsteen a perdu plusieurs potes, compagnons de route, musiciens, et il se rend bien compte que sa jeunesse est derrière lui.
Donc c'est un album, si je vous ai bien suivi, introspectif.
C'est ça, c'est vrai que Bruce Springsteen ne nous a pas habitués à ça, c'est même la première fois qu'il nous offre une telle intimité, c'est ce que m'a confié Belle Cassette. Mbalouli, il est rédacteur en chef de Rolling Stone France, le magazine, et aussi auteur d'un livre sur le chanteur.
En fait, avec Letter to You, contrairement à ses autres albums où il parle des gens qui l'entourent, où il incarne des personnages, là, c'est pour la première fois, c'est lui qui est vraiment au centre de l'album. C'est lui qui est au centre et il raconte sa vie. C'est ça qui le rend vraiment intéressant, parce que quand on écoute certaines chansons, on se dit « Tiens, c'est exactement ce que je pensais du bonhomme ». On sent le type qui est bienveillant, qui est proche de ses fans, proche de ses amis, et ça le rend encore plus sympathique.
C'est vrai qu'on a plutôt l'image de Bruce Springsteen qui évoque l'Amérique, born in the USA.
Ouais, c'est ça, il y a quelques jours de l'élection présidentielle américaine, on aurait pu croire que ça en serait le thème. Eh bien non, il faut vraiment chercher pour trouver des références à cette Amérique qu'il a tant chantée. En réalité, ce 20e album, Letter to You, est un voyage dans les entrailles du boss avec un son qui n'est pas sans rappeler celui de Born to Run. C'était son troisième et considéré comme l'un de ses meilleurs albums. But till it translates.
Dans son nouvel album, il y a ses mêmes guitares puissantes, ses orgues pour harmoniser le tout. Il s'est d'ailleurs entouré de ses célèbres musiciens, le E Street Band. Cet album, taillé pour le live, a été enregistré, Philippe, en 5 jours.
Donc Angèle, Voyage dans les tripes de Bruce Springsteen, et... nouvel album déjà disponible, on va l'entendre. Pascal Arbillot, ça vous plaisait?
Ah oui, mais j'ai adoré. Moi, je l'ai vu une fois en concert, ça a duré 4-5 heures. Ouais. C'est incroyable. Et il ne s'en va pas.
Ouais.
Et nous, on n'a pas envie de s'en. En fait, c'est incroyable.
Personne n'a envie de partir.
Et personne, et ça dure 4h30 non-stop, non-stop. Et c'est vraiment un. Ouais, c'est le boss, c'est populaire.
Ouais.
Et c'est intime, c'est un mec incroyable.
Populaire
incroyable.
Et de qualité et d'une finesse.
C'est dingue.
Complètement
c'est dingue.
Pour l'avoir vu, je souscris totalement à ce que vous venez de dire.
9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Pascal Arbillot, la comédienne. Pascal, ça me rappelle une question des nuls. Vous aimez rire?
Voilà. Réponse.
Quelle bonne question. Copyright Alain Chabat. Bonjour Louise Bernard.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Et vous aussi vous aimez rire, je le sais. Et ce matin, vous nous conseillez le spectacle du jeune humoriste Charles Nouveau. Dis donc, il porte bien son nom. Ça s'appelle Joie de vivre.
Oui, Charles Nouveau, il fait partie de l'excellente scène comique suisse qu'on a la chance de pouvoir applaudir dans les salles françaises. Je vous cite de ses compatriotes que vous êtes susceptibles de connaître, hein, Marina Rollman et Thomas Wiesel. Ils sont tous suisses et humoristes, un profil qui peut laisser les spectateurs un peu sceptiques. C'est pas moi qui le dis, c'est Charles Nouveau.
Humoriste suisse, c'est un peu comme dire du vin malgache, tu vois. Par curiosité, je vais goûter. Hein, mais on démarre avec du scepticisme, un petit peu. Ouais, effectivement, je suis suisse. Ça surprend les Français souvent quand je dis que je suis suisse, parce que vous me faites souvent la remarque « Ah, mais c'est marrant, parce que t'as plutôt une tête de pauvre. » C'est vrai qu'il y a beaucoup de clichés, hein, sur les Suisses et l'argent à l'international, mais vous remarquerez que quand il s'agit de stéréotyper une communauté tout entière vis-à-vis de l'argent, les gens pensent plus spontanément aux Juifs qu'à nous. Hein, ce qui est quand même assez ironique quand tu sais que c'est quand même nous qui avons l'argent de leurs grands-parents. Ah, moi j'aime beaucoup cette balle. Parce qu'elle crée un vrai schisme dans la salle. Je sais pas si t'as senti. Parce qu'on sent vraiment au niveau des rires qui a fait ou non des études.
Excellent.
Voilà, c'est un extrait qui représente bien le style de Charles Nouveau. Qualité d'écriture, finesse, rythme impeccable. Rajoutez à cela de l'autodérision et du cynisme qui ne le quitte jamais d'ailleurs, même en interview, quand je lui ai parlé du contenu de son spectacle.
Je parle un peu de tout, je parle de la mort, de l'amour, des enfants, du sexe, qui sont des thématiques qui, je crois, avant moi, n'avaient jamais été explorées dans l'univers du spectacle. Donc on a vraiment... je réinvente vraiment le stand-up.
Effectivement, ça n'a pas l'air très original comme ça, comme thème.
Non, mais il est dur avec lui-même. En fait, ce qui fait la réussite du spectacle, ce sont toutes les qualités que je vous citais avant. Et puis son talent, c'est justement ça aussi, hein, de prendre des thèmes communs à de nombreux spectacles d'humour, parvenir à en faire des sketchs réussis, car personnels et finalement originaux. Quand il vous parle d'enfants, par exemple, en fait, il va vous raconter de délicieuses anecdotes sur ses neveux à qui il s'adresse comme à des adultes. Il parle de drogue, mais vous n'entendrez pas un autre humoriste raconter comme lui sa palpation par un douanier au milieu d'un wagon-bar. Et puis sa spécificité, sa nationalité suisse, ça l'inspire largement pour créer des sketchs bien à lui.
En revanche, comme beaucoup de Suisses, je ne suis pas que Suisse. Je suis petit-fils d'immigrés, petit-fils de réfugiés même, puisque mon grand-père, il y a très longtemps maintenant, s'y est installé pour fuir l'oppression du fisc français. Je suis donc métisse. Pas complètement dépaysé, du coup, culturellement, quand je viens faire des blagues en France. Enfin, en France. Au bled. Comme j'aime dire. Ravi d'être parmi vous, Rouya.
C'est drôle. Et d'ailleurs, Louise, pourquoi il y a justement Charles Nouveau, il est venu habiter en France?
Bah, c'est exactement la question que je lui ai posée.
En Suisse, en fait, bah, c'est beaucoup trop petit. Déjà, la scène stand-up, à proprement parler, surtout quand moi j'ai commencé, elle était inexistante quasi. Maintenant, il y a un peu plus de choses qui sont mises en place, et, dont certaines qu'on a créées, nous, ma génération d'humoristes.
Et puis ouais, en fait, en France, par exemple, l'idée de pouvoir jouer ton spectacle toutes les semaines, en Suisse, c'est pas possible. Il n'y a pas assez de gens pour ça. Personne ne fait ça. Au moment où moi, je commençais en Suisse, peut-être que tu pouvais faire 5-6 passages dans le mois. Alors qu'ici, il y a des soirs où ça m'est arrivé plein de fois de jouer 4-5 fois le même soir. Donc c'était vraiment question de jouer plus et de m'améliorer. Et a priori, ça a plus ou moins fonctionné. Donc c'est cool.
Voilà, en ce moment, il joue un peu moins, un couvre-feu oblige, mais il a quelques dates en novembre à Paris, les vendredis 6, 13 et 27 novembre au Théâtre du Marais à 19h. Plein de dates en décembre aussi. Et vu le contexte, le mieux, c'est de le suivre sur les réseaux sociaux. Il annonce ses représentations partout en France dès qu'il peut. Et pour finir, je me permets un conseil plus général. Si vous le pouvez, allez rire dans les salles, allez au spectacle, oubliez l'actualité morose. Ça dure une heure seulement, mais vraiment, ça fait un bien fou, je vous le promets. Surtout quand l'humoriste est bon, comme Charles Nouveau.
Merci beaucoup, on est bien d'accord, on peut que dire d'accord. Ça vous a plu, Pascal Arbillot ?
Ah oui, beaucoup, beaucoup. Et j'aime beaucoup Marina Rollman aussi. Il y a une petite...
La Suissesse.
La Suissesse, oui.
Vous avez essayé plein de métiers, vous pourriez monter sur scène en essayant de faire rire ?
Bon, oui, oui, oui. Mais oui, j'aurais pu en tout cas, oui. Après, j'aime bien l'idée d'une troupe,
ouais.
Mais de se coltiner frontalement seul, ça doit être assez, ça doit être une bonne drogue aussi. Ouais.
J'aurais pas vu les choses sous les termes de drogue, mais ça me
va
aussi.
Vrai, mais, bon.
Mais c'est vous qui l'avez
c'est
dit,
vrai.
Ça ira avec la dendra, on racontera
voilà,
tout ça à votre
voilà.
Psy. Merci c'est... beaucoup Louise Bernard, on se retrouve dans un
avec
instant
plaisir.
Avec la comédienne Pascal Arbillot, Culture Média continue.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Bondel.
En compagnie de la comédienne Pascal Arbillot, qui est à l'affiche du film Miss, il y a une question très intéressante, un débat très intéressant soulevé par ce film. D'abord, une remarque du personnage joué par Isabelle Nanty. Je la cite, elle dit « Vous avez conscience que Miss France, c'est le temple de l'asservissement de la femme. On retourne à la préhistoire, chose qui peut être entendue. » Et à un moment, il y a un débat très intéressant entre le personnage d'Isabelle Nanty et le vôtre sur le rôle du bikini. Voilà. Cette petite pièce de tissu qui était le symbole de l'émancipation de la femme est devenue celui du sexisme. J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus.
Ah ben, je pense que, à mon avis, déjà il est clair, c'est qu'il faut demander l'avis, demander l'avis des femmes.
Ben, le vôtre, vous êtes une femme. Le bikini, c'est sexy ou c'est émancipateur ?
Pour moi, le bikini, c'est un marqueur historique. C'est même pas que j'ai pas d'avis. Moi, j'en mets pas de bikini. C'est pas mon truc. Mais je ne supporte pas. Justement, qu'on puisse penser ça. Je ne supporte pas.
Qu'on puisse
pas.
Penser quoi ? Qu'on puisse penser que c'est émancipateur ou qu'on puisse penser que
c'est
sexiste ?
Non, mais qu'on ait un jugement. C'est que, justement, le film parle de ça. Le droit d'être soi, le droit de faire ce qu'on veut. Vous avez des femmes qui peuvent se balader à poil, qui sont plus pudiques qu'une nana. Enfin, ça ne veut rien dire. C'est encore instrumentalisé.
Vous savez que
être
vous savez que je vous pose
dans
simplement
les deux sens.
Vous
mais
savez
ça
que
m'énerve.
Je vous pose simplement une question qui est dans le film.
Je sais, mais moi
donc même ce qui est dans le film
que,
vous énerve.
Mais bien sûr, mais parce que c'est tout le débat, c'est que Isabelle Nanty dans son personnage a raison de vouloir protéger son enfant du regard des autres, de lui dire il faut pas juste comme on pourrait dire à quelqu'un qui se présente à Miss France, pourquoi tu veux te montrer un maillot de bain, il y a pas autre chose à faire en tant que femme.
Exactement.
Mais de
là
quel
aussi.
Droit Mais de quel droit parfois il a fallu. J'ai vu moi des candidates, je vois très bien, elle ça a été une planche de salut. Souvent on affronte le regard des autres, on se met en danger et beaucoup de femmes vivent ça pour justement chercher une approbation, pas forcément au bon endroit, mais c'est une forme d'émancipation et c'est nous qui regardons mal, c'est nous qui jugeons, c'est nous qui mettons en concurrence des féminismes différents. Je ne supporte pas, même moi-même j'aurais pu avoir un préjugé. Moi je suis incapable de défiler un maillot de bain, mais ça voudrait dire que les filles qui sont belles pensent qu'elles sont belles. Je défile un maillot de bain, ça veut dire que je me la pète. Ben non, justement c'est beaucoup plus complexe et souvent on se montre quand on est très complexé. C'est le paradoxe même du comédien.
Et c'est dans le paradoxe de ce film justement, le hiatus.
Je m'énerve, mais c'est un sujet qui m'énerve profondément. C'est vrai.
Mais non, mais c'est très intéressant au contraire quand
ça
on s'énerve.
Ça m'agace. Ouais.
Et justement, le hiatus du film, c'est que ce garçon qui récuse le patriarcat, qui est gender fluid, gay friendly pour dire des mots faciles, il va justement vers ce qui représente le symbole du patriarcat.
Oui.
Donc il va justement concourir vers tout ce qu'il déteste.
Oui, mais pour se dépasser lui-même, parce qu'il se rend compte que lui-même a un regard sur la société, attend le regard des autres. Et il faut d'abord qu'il s'aime un tout petit peu plus et qu'il n'ait pas besoin autant de regard. C'est même pas d'émancipation, c'est quand on n'est pas regardé en France, un orphelin, on cherche le regard. Et ce n'est pas toujours les bons regards qu'on trouve en premier. Il faut d'abord avoir une autonomie affective et c'est ce qui est le plus difficile pour tout le monde.
Tout à fait autre chose, ou plutôt c'est un projet. Pascal Arbillot, j'adore quand vous êtes comme ça. Vous êtes dans le casting d'un film qui est très attendu. Oui. Ça s'appelle Président, au pluriel. C'est avec Jean Dujardin dans le rôle de Nicolas Sarkozy, Grégory Gadebois dans le rôle de François Hollande. Vous allez jouer Carla Bruni. Vous allez jouer Carla Bruni ou Julie Gayet ?
Mais, ça, c'est la question. Voilà. Ben, aucune des deux, déjà. Mmh. C'est une fiction, c'est une fable on pourrait dire, c'est comment on appelle ça, une dystopie.
Ouais,
Donc je ne suis absolument pas le personnage de Julie Gayet. Doria n'est pas du tout chanteuse. Et, et vous verrez, mais je vous jure, ça n'a rien à voir. Après, évidemment, il y a des références. Mais alors, en tout cas, pour les personnages féminins, ce ne sont pas des personnages qui ont existé. Nicolas Sarkozy et François Hollande sont effectivement interprétés par deux acteurs, mais nous, les femmes, justement, c'est un point de vue très intéressant d'une femme, Anne Fontaine en l'occurrence, sur la politique et les femmes autour des politiques.
D'un mot, notre invité après-demain dans Culture Média.
Je suis hyper énervée, c'est drôle.
Mais j'aime beaucoup.
Ça m'a énervée. Le bikini.
Mais non. C'est bien d'avoir des convictions. Mais notre invité, aucun rapport avec le bikini. Notre invité après-demain dans Culture Média, je l'annonce tout de suite, ce sera François Hollande, l'ancien président de la République. Merci beaucoup, Pascal Arbillot.
Merci à vous, Philippe. Merci
beaucoup. Le rappelle, le film Miss sur les écrans actuellement, film de Ruben Alves avec Isabelle Nanty, Thibaut de Montalembert et Alexandre Véter. Film qui pose beaucoup de questions et qui continue, même lui-même, ontologiquement, à faire réagir Pascal Arbillot, la comédie. Nous, on se retrouve demain à 9h pour Culture Média. On sera avec le journaliste et critique littéraire François Bunel pour une très belle opération, l'action solidaire Donner à lire, destinée aux enfants qui n'ont pas accès à la lecture. Et puis l'écrivain Romain Puertolas pour un livre très très loin des codes du polar. Juste après le flash, c'est Anne Romanoff avec Ça fait du bien. Je vous dis à demain.
Europe 1, Culture Média.